Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Bonjour, bienvenue sur Radio Cité. C'est maintenant l'émission nectar.ge.ch. C'est une émission qui est destinée à mieux faire connaître les vins genevois, qui sont reconnus, qui ne l'ont pas toujours été. Et c'est une émission qui a pour but de parler du vin d'une certaine façon, décontractée, mais exigeante. Et puis nous voulons que cette émission ait une dimension poétique, culturelle. Et en somme, voilà, nous cherchons à vous documenter pour que les vins genevois soient vraiment prisés de toute la population genevoise pour une raison assez simple. C'est que finalement, les vins genevois, on les consomme surtout chez nous et on a de la peine à les exporter loin, au-delà des océans. Et voilà, nous voulons simplement leur rendre justice. Alors, notre émission a pour centre de gravité chaque fois l'invitation d'un vigneron ou d'une vigneronne. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Émilienne Hutin. Est-ce que j'ai besoin de présenter le domaine ? C'est un domaine qui est très, très coté à Genève. C'est un domaine que je connais depuis 40 ans, au moins. Et j'ai jamais bu une mauvaise bouteille du domaine des Hutins. Alors voilà, nous allons demander à Émilienne si elle peut en quelques mots nous présenter le domaine, je veux dire son histoire, son étendue, la nature de sa production et tout et tout.
Alors, pardon, bonjour, avec grand plaisir. Alors j'ai une grosse pression avec une telle présentation, mais c'est un domaine effectivement qui est à la base un domaine familial, qui est exploité depuis plusieurs générations par des frères et qui en fait était d'abord un domaine agricole, c'est-à-dire plutôt toujours de la vigne, il y a toujours eu de la vigne, mais il y avait aussi des céréales, il y avait aussi du bétail. Finalement, il y a une évolution fin des années 70, c'est fin de l'élevage, fin du bétail, toujours les céréales, toujours de la vigne et puis toujours de l'encavage, toujours un pressoir au domaine, il y a toujours eu du vin. En fait, les mon oncle et mon père, mais mon grand-père et mon grand-oncle ont toujours, et mon arrière-grand-père ont toujours fait du vin au domaine, en fait. Et c'est finalement mon père et mon oncle, qui, dans les années 80, qui ont vraiment donné l'impulsion vigneron en caveur, grande diversification, qui ont vraiment fait partie, je pense, de ces pionniers du vignoble genevois à essayer de valoriser ce vignoble, à essayer de proposer aux gens peut-être d'autres vins parce que la notoriété était plutôt basse et qu'il fallait essayer de montrer qu'on pouvait faire des choses différentes. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec eux depuis fin des années 80 et de reprendre finalement le domaine en 2008.
Voilà. Vous avez toujours été indépendant.
Toujours été indépendant, ouais. Vigneron caveur indépendant, ça, c'est c'est quelque chose qui est assez revendiqué et voilà, qui fait que, ouais, vigneron, c'est-à-dire cultiver la vigne, encavage, la vinification, mise en bouteille et la commercialisation.
Ouais. Voilà, tout. Tout d'accord.
Un vin fait, comme on dit dans l'association des vignerons caveurs, un vin fait d'une seule main.
Voilà. La surface en vigne du domaine.
Alors, elle a actuellement de 20 hectares, en fait. Elle a relativement peu bougé, mais il y a 20 hectares, effectivement, de vignes sur la commune de Dardanie.
20 hectares, c'est beaucoup de personnel?
Ouais, c'est chez nous. Alors après, il peut y avoir des variations quand même d'un domaine à l'autre. Ça dépend un petit peu quelles options on prend, quelle direction on a envie de prendre. Mais nous, on a quatre ouvriers agricoles à l'année. Mon père, qui même s'il n'est plus associé, nous donne encore des sacrés bons coups de main. Une collaboratrice et mon fils Guillaume, qui maintenant depuis 2 ans travaille avec nous sur l'exploitation, plutôt au niveau viticole, lui.
D'accord. Alors, il y a du personnel, donc d'autres intervenants. Et vous faites quoi au juste dans l'aventure ?
Alors, effectivement, rien du tout. Non, mais j'exagère. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué entre le moment où j'ai commencé à travailler avec mon père et mon oncle, où finalement, je me suis assez naturellement plutôt consacrée aux vinifications, où je travaillais vraiment principalement aux vinifications, après avec une polyvalence, bien sûr, mais j'étais vraiment sur le terrain, livraison, dans la cave, etc. Puis c'est vrai que plus, finalement, on prend des responsabilités dans le sens décisionnel, ben forcément qu'on doit passer un peu plus de temps. Et puis qu'on reprend après l'exploitation aussi au niveau aussi administratif et autres, ben on doit passer un peu plus de temps à l'administration, plus de temps avec les clients, avec bien sûr ça prend beaucoup de temps et d'énergie, c'est toujours très intéressant, mais ça demande une disponibilité. Et puis finalement un peu chapeauter les choses, organiser que ça se passe bien ou comme on a envie que ça se passe. Alors c'est vrai que finalement, malheureusement, parce que j'aimais bien aussi aller à la vigne, finalement, je suis relativement peu vraiment dans les vignes ou sur les tracteurs. Alors, pendant l'été, là, oui, j'y suis. Ben là, j'ai sauté du tracteur pour venir ici. Mais c'est vrai que j'ai perdu peut-être un tout petit peu ce côté très praticien.
Radio. Cité Genève.
J'aimerais vous demander si vous croyez à la prédestination.
Ouf. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, pour être franche. Je pense que... Parce que moi, c'est vrai que la décision, si c'est par rapport... La question est liée au fait que je sois dans ce domaine. Je ne sais pas exactement donc, pourquoi il y a cette question.
Je vais vous dire mon arrière-pensée. Ouais. Je vous aide. Non, expliquez à nos auditeurs ce que ce sont que des hutins.
Ah, ouais, bien sûr. Alors, par rapport au nom de famille, ouais, je ne suis pas certaine que ce soit il y a un lien, parce que finalement, avant... Les hutins, c'était la famille Ray, et puis il y avait déjà un côté viticole. Hein. C'est un hutin qui a marié une fille Ray, donc. Mais effectivement, les hutins, c'est une manière de cultiver la vigne, qui était une ancienne manière de cultiver la vigne en plantant des cèpes au pied des arbres, et qui permettait aux cèpes de vigne de grimper le long des arbres et d'être ensuite palissés à hauteur des vergers, et de manière à pouvoir garder une activité au sol ou des moutons ou autre chose, ne pas payer d'impôts parce que c'était à plus de X mètres du sol. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a, je pense, pas mal d'endroits où c'est le chemin des gros hutins, des hutins goulus, des choses comme ça, peut-être parce qu'il y avait des parcelles de vignes en hutin.
Voilà, je me disais bêtement que c'est, ou intelligemment, que c'est un nom qui est un peu prédestiné. Est-ce que les tonnelles font partie des... On dit hautain en France et hutin par là. Mm-hmm. Les tonnelles, c'est considéré comme...
C'est considéré comme... ça ressemble finalement à cette notion de hutin, si ce n'est que ce n'est pas lié à ces arbres, aux vergers, en fait.
Voilà, mais il n'y en a plus à Genève. Plus personne ne cultive.
Alors, les vignes en hutin, il y a Stéphane Gros, un collègue qui est sur la commune de Dardany, qui a planté sur le plateau de la Donzelle, qui est en train de mettre en place des vignes en hutin. Ouais, pour le côté, justement, rappeler cette tradition. Et à la Maison du Terroir, sauf erreur, à Lully, il y a aussi des vignes qui ont été plantées en hutin, juste sur un petit, à l'entrée de la Maison du Terroir.
Voilà, donc les gens qui se nomment hutins sont prédestinés à la culture de la vigne et à la fabrication de bon vin.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Alors le thème du jour, parce qu'il est important que nous nous instruisions, c'est une question qui apparaît peut-être un peu bébête, c'est quand les raisins sont-ils mûrs? À quel moment décidez-vous de vendanger? Et bien sûr que l'enjeu, c'est la question de la vinification, dans quelle perspective allez-vous faire le vin? Voilà, alors... Voilà, comment prenez-vous la décision de vendanger?
Alors, c'est une question pas bête du tout, parce que c'est vrai que c'est un moment clé pour nous. Cette décision, elle commence déjà actuellement, là, cette année, autour de la mi-août, on commence à suivre cette maturité des raisins. On a plusieurs pistes. La toute première piste, c'est la floraison. La floraison va déjà nous indiquer, la date de la floraison va déjà nous indiquer quelque part si les vendanges vont plutôt être précoces ou tardives. Parce qu'au moment où la vigne fleurit, on compte environ 100 jours. Donc, ça nous donne déjà une indication. Si ça fleurit début juin, mi-juin, comme cette année, même début juin, ou bien mi-juillet, ça va déjà nous donner une idée de si c'est des vendanges précoces ou tardives. Ensuite, il va y avoir le moment de la véraison qui est largement entamé actuellement, où finalement les raisins vont commencer à... Il va commencer à y avoir de la fabrication, de l'apparition de sucre dans les baies. La couleur va changer pour les rouges. On va commencer à avoir des baies qui deviennent roses et qui rougissent. Pour les blancs, les raisins vont devenir un peu translucides. Et puis à partir de là, on va effectivement faire des prélèvements pour contrôler la teneur en sucre des raisins et l'acidité. Et évidemment, on va les goûter, ces baies également. Alors la manière classique, en fait, c'est de faire ces analyses. On a la chance qu'elles sont faites régulièrement par la station cantonale de viticulture à Genève qui a des parcelles dans différentes communes et puis qui va faire ce suivi des maturités. Parallèlement, sur notre exploitation, on va également faire des prélèvements, mais un peu plus tard, quand on aura goûté les raisins et qu'on se rend compte que le taux de sucre commence à être élevé puis que l'acidité a commencé à diminuer. Et puis après, c'est cet équilibre entre l'acidité et le degré de sucre qui va nous donner déjà une bonne indication de si on se rapproche des vendanges ou pas. Et ensuite, il y a encore toute la maturité des arômes et des peau des raisins qui également ont une énorme influence. Avant, peut-être que classiquement, on tenait compte surtout de l'acidité et puis des sucres. Puis maintenant, c'est vrai qu'on goûte beaucoup les baies. On va goûter la pulpe et puis on va goûter les peaux. On va mâchouiller ces peaux, voir si les tanins commencent à être très amers ou pas du tout. Même au niveau des pour les blancs, savoir si les arômes sont des arômes sur la verdeur ou au contraire, on commence à avoir des choses qui vont sur la maturité de ce qu'on recherche après dans le vin. On a également toujours la même station cantonale de viticulture qui fait des prélèvements et qui va mesurer, en fait, pour les rouges, la maturité des polyphénols, justement, de ce qui va après être les tanins qu'on retrouvera dans le vin. Donc, ils font des courbes qui nous permettent, ils mesurent, en fait, la quantité d'anthocyanes et la couleur, en fait, des peaux. Et puis, ensuite, la courbe va aller en croissant. Et à partir du moment où elle arrive à son sommet et qu'elle va commencer à légèrement diminuer, ça nous dit, là, il y a une dizaine de jours et on serait dans le moment optimum par rapport à la qualité des tanins. Alors, tout ça, c'est toutes des informations qu'on a. Ce qu'il faut, pas qu'on oublie, c'est d'aller on fait nos prélèvements, on goûte nos raisins beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à partir de là, c'est le grand challenge. Quand faire venir l'équipe des vendanges? C'est toujours un moment assez crucial parce qu'évidemment, dans tout ça, il y a encore la météo. Est-ce qu'il va faire sec? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que s'il pleut, ça va induire de la pourriture ou pas? Donc voilà, c'est toujours un moment clé. Mais avec toutes ces pistes, tous ces indices, on donne déjà à notre équipe, ça va plutôt être mi-septembre ou fin septembre ou alors au contraire mi-octobre. Hein, et puis après, une quinzaine de jours avant, on sonne l'alerte.
D'accord, moi j'en étais resté à une méthode qui peut paraître artisanale, c'est-à-dire je voyais tel ou tel vigneron, prélever des échantillons, quelques grains, à différents endroits de la grappe, les écrabouiller dans un petit verre, verser 3 gouttes sur une petite lunette, et puis ça donnait les degrés Huxley.
Exactement.
Alors maintenant, à vous comprendre, c'est donc la station cantonale qui détermine ça, peut-être globalement. Et est-ce que c'est-à-dire que, par exemple, tous les vignerons genevois vendangent leur chasselas ou leur pinot à peu près en même temps?
Non. La station cantonale, elle fait ses prélèvements dans les différentes régions et elle informe, en fait. Elle donne ses résultats. Nous, en parallèle, on fait effectivement, alors ce que vous venez de dire, mesurer la densité, la quantité de sucre, en fait, qu'on a dans nos raisins avec un réfractomètre. Effectivement, on le fait alors aussi tout à fait de manière très régulière, une fois par semaine, quand on voit que nos grappes sont commencent à être bien mûres, quand on mange des raisins, qu'on sent que c'est sur la bonne piste, la bonne direction. À ce moment-là, une fois par semaine, en tout cas chez nous, on va prélever des baies justement qu'on presse, on goûte les jus et ensuite on mesure effectivement dans les degrés Huxley qui va nous donner en fait le potentiel en alcool en fait du futur vin.
Voilà.
En parallèle, on goûte toujours, hein, parce que c'est vrai que ce potentiel en alcool, c'est pas parce que c'est quelque chose qui a déjà 13,5% volume d'alcool qu'il est mûr, dans le sens où peut-être que les arômes ou les tanins doivent encore bouger. Mais c'est vrai que, alors ça, c'est ce travail, on le fait tous de manière individuelle chez nous dans notre domaine, parce qu'il peut y avoir des grosses variations, en plus, selon le cépage, selon la situation de la parcelle, selon s'il y a eu du gel ou de la grêle ou je ne sais quoi. Enfin bref, il y a vraiment, on a tous nos entités qui sont la vigueur de la vigne. Enfin, il y a tellement de paramètres. Donc après, c'est nous qui faisons chacun notre travail et on a cette chance à Genève d'avoir la liberté totale de commencer des vendanges quand on l'entend. Et chacun, d'accord, par rapport à ses parcelles. Et puis comme on a une grande diversification de cépages à Genève, c'est souvent des vendanges qui durent un peu, parce que c'est vrai qu'on va aller vendanger rapidement peut-être un Pinot Gris ou un Riesling Sylvaner, ou alors on va faire pour faire des mousseux, on va démarrer les vendanges aussi bien plus tôt pour avoir pas trop d'alcool à la base, puis une belle acidité. Et puis, mais là, c'est chaque vigneron qui détermine son démarrage de vendange. Ça, c'est vraiment une grande liberté que l'on a, qui n'est pas forcément le cas partout. Hein.
Est-ce que vous avez à Genève des cépages que vous auriez implantés de manière audacieuse, mais qui ont de la peine à mûrir?
Ah bah, je pense que tout le monde, enfin non pas tout le monde, mais il y a effectivement plusieurs essais qui se sont faits ou qui sont en train encore de se faire avec des cépages. Chez nous par exemple, c'est vrai qu'on avait planté du Tempranillo, qui est le cépage, voilà, qui a priori, je sais qu'il y a d'autres collègues qui l'ont fait et puis avec succès, mais c'est vrai que moi je me suis dit, bon voilà, c'est très exigeant, c'est quand même une maturité qui est un petit peu plus tardive, c'est un cépage qui n'aime pas trop l'humidité, et c'est vrai que chez nous, ben, c'est un peu plus aléatoire qu'un Gamay, qu'un Pinot Noir, qu'un Chardonnay, un Sauvignon, qui sont des cépages qu'on je veux dire, même en année difficile, on sait qu'on va arriver à faire quelque chose d'intéressant.
Je pensais à la Syrah, au Cabernet.
Ouais, alors, ben, c'est-à-dire que c'est clair qu'il y a 25 ans, Syrah et Cabernet, enfin, c'est pas vrai, parce qu'on a planté du Cabernet Sauvignon en 91, et c'est vrai, mais c'est vrai que ça reste un peu plus aléatoire, un peu plus astreignant, un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on doit être drastique à la vigne au niveau des rendements, on doit être patient à un moment de la récolte. On y arrive, mais c'est aussi, peut-être on y arrive aussi maintenant, peut-être un peu plus facilement, parce qu'il y a quand même un changement climatique. On le sent, il est là.
Oui, bien sûr, ça se sent. Mm-hmm. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est votre père ou Pierre qui m'ont dit une fois que c'était problématique d'avoir un trop fort degré d'alcool. Certaines années de sécheresse et de soleil acharné, il y avait un vrai problème de vinification.
Mm-hmm. C'est vrai que quand on a des années très chaudes et avec effectivement beaucoup d'alcool, souvent ça veut dire peu d'acidité, parce que c'est vrai que quand il fait très chaud et le jour et la nuit, souvent les acidités diminuent très très vite. Et puis c'est vrai que ça dépend les cépages de nouveau. Il y a des cépages qui vont adorer ça, pour qui ce sera très favorable. Puis d'autres, effectivement, on risque d'avoir. D'abord, on va avoir des fermentations qui seront plus difficiles à mener, parce qu'effectivement, il faut transformer tous ces sucres en alcool. Si on veut avoir des vins secs, ça veut dire que c'est les levures, au bout d'un moment, quand il y a trop d'alcool, elles ont quand même de la peine à travailler. Donc, c'est des suivis de vinification qui sont assez souvent, qui nous empêche parfois de dormir quand même, parce qu'on doit les relancer. Enfin voilà, c'est les déviances, les pH souvent du coup sont plus élevés, donc les déviances peuvent aussi être plus, il peut y avoir plus de déviance. Et puis après, c'est surtout l'équilibre. À la fin, c'est cet équilibre dans le vin, entre acidité, entre l'alcool. Si on a un vin avec beaucoup d'alcool, très peu d'acidité, des fois, c'est pas forcément facile.
Si vous avez de la peine à dormir, vous pouvez vendanger la nuit. Il y en a qui font ça. Pas d'allusion, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, je me suis instruit. Merci beaucoup à vous, Emilienne. J'ai appris, je me serais pas douté que en goûtant simplement le mou, vous arrivez à prévoir la valeur aromatique du millésime. En somme, à bien vous avoir compris, on se dit qu'on peut avoir une bonne année pour les gamay, mais par exemple moins bonne pour les cabernets.
Ah oui, c'est sûr. Alors qu'il peut y avoir forcément qu'il y a des années qui sont plus favorables à certains cépages que d'autres. Après, à nous de travailler justement en cave, en vinification, enfin prendre des options qui permettent déjà de respecter ça, puis de pas vouloir forcément faire un vin avec beaucoup d'extraction alors que la maturité est peut-être un tout petit peu limite. Après, ça c'est vraiment les travails de l'œnologue et du caviste.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Donc maintenant nous allons soumettre Emilienne Hutin à dégustation. La dégustation, c'est tout un art. On ne fait pas gloup, on ne boit pas au goulot, c'est de mauvaises manières. On ne boit pas au goulot parce qu'on perd les parfums, les arômes, etc. Tout ce qui se passe avec le nez est d'une importance capitale. Donc, on boit dans des verres, et pas seulement dans des verres, mais dans des verres ad hoc. Alors, nous allons ouvrir une bouteille dont Emilienne ignore l'identité.
Bravo.
Alors, je verse.
Merci.
Parlez-nous peut-être déjà de la forme du verre, parce qu'il me semble que ce verre est une forme maintenant consacrée.
Oui, c'est vrai que c'est un verre dit un verre Inao qui est un verre sur pied déjà, qui a une partie plutôt un petit peu évasée. C'est difficile à décrire, mais un peu évasé sur le haut fond, et puis qui va se rétrécir légèrement sur le haut.
Je vous interromps.
Oui.
Vous savez, j'aime bien que ce soit évasé parce que il y a beaucoup de bistroquets qui sont des vrais assassins du vin, qui nous le servent glacé, et puis je le tempère un peu dans le creux de ma main.
Voilà. Exactement.
Alors il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est délictueux, mais je m'en moquais perdument. Je le tempère si j'en ai envie.
Oui, bah c'est vrai.
Voilà.
Que c'est,
alors
c'est...
le bas, maintenant le haut.
Oui, le haut. Alors se rétrécit légèrement, effectivement, pour permettre en fait d'abord de faire tourner le vin dans le verre de manière à permettre aux arômes en fait de s'exprimer, et puis surtout en fait le fait que ce soit légèrement rétréci sur le haut permet en fait aux arômes de tout se diriger vers nos narines, nos capacités à sentir tous ces arômes. Après il y a des verres, si on veut vraiment affiner, maintenant il y a une quantité de verres qui existent, des verres qui ont été créés spécialement pour le Chasselas, spécialement pour le Merlot, spécialement parce que c'est vrai que finalement et quand on fait vraiment le test du même vin dans des verres différents, on peut avoir des expressions assez différentes. C'est assez incroyable.
Voilà, là, il faudra un nouveau budget.
Mais
hein, parce que je
ne
crois pas que les gens soient dotés.
Non, mais après, voilà.
C'est... Donc, vos impressions, et vous nous dites peut-être ce que vous faites. Quelles sont les opérations auxquelles vous procédez?
Bon, d'accord. D'abord, on va effectivement simplement avoir le visuel. Regardez si le vin, la couleur du vin, si, voilà, là, il a une jolie couleur dorée, je trouve. Il est totalement limpide. Ensuite, on va faire... Avant de faire bouger le vin dans le verre, on peut... Déjà prendre un premier nez, c'est-à-dire sentir le vin, voir qu'est-ce qu'il exprime, quel type d'arôme il nous transmet. Et ensuite, on va faire tourner le vin dans le verre pour permettre à ces arômes de mieux s'exprimer, pour que ce soit un tout petit peu, voir s'il s'ouvre ou pas, ou si, au contact de l'oxygène. Ensuite, donc on le sert, et ensuite on va le prendre en bouche. Et quand on le prend en bouche, ben dans l'idéal, on le fait un peu tourner dans la bouche, histoire de d'utiliser un peu toute notre cavité buccale pour percevoir l'acidité, pour percevoir s'il y a du sucre ou pas de sucre, pour percevoir éventuellement de l'amertume, enfin voilà, les différentes choses.
Voilà, alors l'heure de vérité, après, en bouche. Que se passe-t-il en bouche? Donc c'est un vin genevois, bien entendu. Hein. Je n'aurais pas le mauvais goût de proposer autre chose.
Bon, alors moi j'ai trouvé qu'au niveau des arômes, c'est un côté très mûr. Une vendange quand même plutôt d'un millésime, je pense justement, assez chaud. Des types d'arômes qui vont plutôt un côté floral, comme ça, presque un petit peu tilleul. En bouche, je ressens de nouveau pas mal de richesse, hein. C'est assez tendre, il n'y a pas une énorme acidité, je trouve que c'est très plein, on sent qu'il y a un potentiel au niveau d'alcool, c'est très, très, très rond comme ça, je ne sais pas comment, nos expressions des fois à nous sont un tout petit peu jargon qui n'est peut-être pas forcément très,
pas très accessible.
Accessible ou qui ne donne pas forcément les bonnes images. C'est nos images pour nous, mais finalement, elles ne sont pas forcément idéales pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais...
Je suis venu à la conclusion, pour ce qui me regarde, que chacun dit ce qu'il veut, exactement ce qu'il veut, parce qu'on dit des choses qui sont tirées de notre expérience. Ça nous rappelle ceci, cela. Donc, je trouve que les mots qu'on emploie pour qualifier un vin se réfèrent à notre vécu.
C'est sûr.
Et je ne pense pas qu'il y a une espèce de lexique universel qui permet de dire ça, c'est ça, comme on désigne. Alors, Alors, il y a des gens qui sont catégoriques pour dire ça, c'est le chèvrefeuille, oui. Ça, c'est je sais pas quoi. Mais zut, quand vous dégustez, bonnes gens, dites ce que vous pensez, ce que vous voulez, et il n'y a pas de police du vin pour vous corriger.
Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que nous, en tant que professionnels, quand on se retrouve autour d'une table ou autour d'une dégustation, c'est peut-être important qu'on arrive à avoir une manière d'exprimer les vins ou de coter les vins, noter les vins qui pour qu'on se comprenne, où on se retrouve. Mais après, c'est vrai que pour les consommateurs et pour le vin, c'est d'abord une notion de plaisir quand même. Je crois qu'il faut juste garder ça en tête.
Bien sûr.
Et puis finalement, moi, j'ai toujours mes clients des fois qui sont là, mais moi, j'y connais rien, je sais pas, j'ose pas. Je dis, mais vous prenez ce vin, vous le goûtez. Est-ce que déjà, vous avez du plaisir? Puis après, si vous avez envie d'essayer de l'exprimer ou de donner vos sentiments, ben, fiez-vous à ce que vous ressentez, parce que finalement, on est tous faits différents.
Sans détour, en toute déconstruction, et puis voilà. Ouais. Bon, maintenant, le supplice va prendre fin, c'est-à-dire qu'on va vous dire ce que c'est.
D'accord, ben, c'est pas moi.
Plus exactement, je vais enlever la chaussette, et c'est vous qui
allez
nous le
dire. Ce qui n'est pas mille facile.
J'espère que c'est une personne, excellente collègue, avec qui vous êtes en bon terme.
Ouais, je ne crois pas que je suis en bon terme avec trop de monde. Voilà, oui, alors c'est
alors,
ma colline,
il s'agit de...
ma collègue Céline Dugerdil du domaine de la Printanière, un pinot gris, effectivement. Donc on comprend ce côté plus rond comme ça, peut-être un petit peu sur le côté un peu plus chaud, parce que le pinot gris a souvent un potentiel, une quantité de sucre assez importante au moment de la récolte, qui donne ce côté un petit peu plus chaleureux comme ça, en millésime 2017.
Moi, je l'ai trouvé intéressant dans le sens que, enfin, vous confirmerez ou non ma remarque, mais je suis totalement décomplexé. Certains pinots gris sont un peu huileux et celui-ci pas du tout. Il a gardé un côté sec et ça, je pense que c'est l'option de Céline Dugerdil.
Exactement. Ça, c'est vraiment lié, je pense, à des envies de la vigneronne de dire bon voilà, j'ai envie de faire un pinot gris plutôt sec, sans sucre résiduel, qui garde un peu de fraîcheur. Et puis c'est vrai que je trouve qu'on a ce côté effectivement. Alors moi, je partais sur le côté floral. C'est vrai que mais peut-être qu'on a aussi ce côté un petit peu quand même coin mûr, ce côté mûr, alors j'exprimais le côté mûr, c'est peut-être ce côté du pinot gris, un peu pâte de coin, comme ça. Mais je suis d'accord avec vous, j'aime bien cette trame aussi qui garde une certaine fraîcheur et non pas le pinot gris trop. Mais ça, c'est des options, vraiment.
Oui, des options de vigneron.
Du vigneron, okay, voilà. Vigneronne.
Radio Cité Genève.
92.2 FM.
Voilà, alors je remercie d'abord chaleureusement Emilia Nutin qui a bien voulu venir à notre micro. Elle vient de Dardagny, qui est un village béni des dieux, d'abord parce qu'il est magnifique, bien conservé, et puis parce qu'il était marqué par la présence de quelques artistes. Il y a un chemin Corot, Camille Corot, a séjourné un certain temps à Dardagny, le divin Corot. Puis il y a aussi un musicien, mais je sais plus comment il s'appelle, Wolfgang, je sais pas quoi. il serait, paraît-il, passé par Dardagny. Il avait 6 ou 7 ans, ou 8 ans. Enfin, sûrement qu'il avait 8 ans, mais que son papa faisait croire qu'il en avait 6. Et alors, il venait de Lyon. Et peut-être qu'il a fait halte à Dardagny. Et puis, ce qu'on sait, c'est que ce musicien, dont le nom ne me revient décidément pas, a donné après 2 concerts à l'hôtel de ville de Genève. Puis après, il s'en est allé par la Suisse, direction de sa ville natale. Il était né à Salzbourg, je crois. Puis son papa, il était extrêmement sévère. Enfin, vous fait entendre cette musique, peut-être que vous arriverez à la situer.
Merci de l'invitation.